Que le Seigneur soit loué et remercié pour sa fidélité, pour sa grâce. Je vais donner un peu de répit à Frère Frank. Je vais lire encore une petite parole. Ainsi, il n'aura pas besoin de parler si longtemps et il n'aura pas besoin de faire autant d'efforts. Lisons peut-être une parole tirée de Deux Rois, une parole très connue dès le premier chapitre. Nous l'avons déjà lu très souvent, cette parole. Mais vous savez, nous l'avons entendue hier, la parole de Dieu est nouvelle chaque jour. Chaque jour. Deux Rois, chapitre 1, du verset 9. Bien sûr, c'est une parole très connue, mais elle est si précieuse et je pense qu'il y a là aussi quelque chose pour nous que Dieu veut peut-être nous dire ou qu'il veut nous dire par cette parole et auquel nous n'avons peut-être pas encore prêtez attention, parfois nous lisons si vite et nous ne remarquons même pas, mais parfois quand nous lisons, une lumière s'allume soudain. Et même si ce n'est que sur un verset, nous pouvons voir la lumière et elle devient si grande pour nous. Et des pensées nous viennent de Dieu que nous n'avions peut-être pas vues auparavant. Et alors nous ne pouvons que remercier Dieu et nous réjouir dans sa présence. Je voudrais peut-être lire du verset 9 jusqu'au verset 15. Deux Rois, chapitre 1, du verset 9 au verset 15. Il envoya alors à sa recherche un capitaine de 50 hommes avec ses 50 hommes. Lorsque celui-ci monta vers lui, car Élie était assis au sommet d'une montagne, il lui dit, « Homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre. » Frères et sœurs, remarquons quelque chose de très particulier. Le roi t'ordonne de descendre. Mais Élie répondit au centurion. Si donc je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, le feu descendit du ciel et le consuma. Lui et ses 50 hommes. Alors le roi envoya encore un autre centurion avec ses 50 hommes et à sa recherche. Il s'adressa à lui en ces termes. Homme de Dieu, ainsi l'a ordonné le roi. Descends tout de suite. Mais Élie lui répondit. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Alors le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma lui et ses 50 hommes. Le roi envoya encore un troisième capitaine avec ses 50 hommes. Lorsque ce troisième capitaine monta vers lui et se jeta à genoux devant Élie et le supplia en disant « Homme de Dieu, que ma vie et la vie de tes serviteurs, ces 50-là, aient quelque valeur à tes yeux. » Tu sais que le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers capitaines et leurs 50 hommes. Mais maintenant, fais que ma vie soit épargnée. Alors l'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, ne crains pas cet homme-là. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Jusqu'à là, cette merveilleuse et sainte parole de Dieu. Personnellement, j'ai déjà lu ces paroles tant de fois, mais j'y ai trouvé de grandes pensées. Je vais être bref. Je vais les mettre en évidence. Je voudrais peut-être clarifier les choses. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Et il reste un homme de Dieu. Et personne n'a le droit de décider d'un homme de Dieu, de lui donner des directives ou de lui donner des ordres. Personne, pas même un roi, ni aucun membre du peuple, pas même un centurion, ni personne. Nous voyons dans cet événement qui est un fait, qu'il n'y a pas d'autre moyen. Nous voyons que Dieu a pris la défense de son serviteur et prophète. Il a prouvé que l'homme de Dieu, peut-être, était au-dessus du roi et avait le droit de le dominer. Pas peut-être le roi sur lui, mais le prophète sur le roi. C'est cela. Nous voyons ce qui s'est passé avant. Le roi était malade. Il est tombé et il a envoyé chercher, il voulait consulter l'idole pour savoir s'il guérirait de cette maladie. Dieu ne l'a pas permis et il a envoyé son prophète en avant pour se mettre en travers de la route de cet envoyé et lui parler et pour lui dire qu'il y a en Israël un Dieu à consulter. Peut-être que le roi n'a pas apprécié d'interroger cet homme simple, Élie, par qui Dieu a parlé. Peut-être qu'il ne lui était pas assez sympathique, mais Dieu prend qui il veut et Dieu parle par qui il veut. Et Dieu s'est choisi Élie et l'a désigné pour ces jours-là. Et il fallait, si l'on voulait, consulter Dieu, venir à lui. Et alors, il parlait à Dieu. Et nous voyons tous ces ordres humains, même les ordres du roi, ils n'ont rien rapporté. Ils n'ont apporté que la mort. La mort de 50 et du centurion et encore de 50 et du centurion. Mais, frères et sœurs, nous en voyons un autre qui est venu avec une attitude différente en face d'un homme de Dieu. Il est venu avec un cœur profondément incliné. Oh, comme son cœur a dû trembler. Comment ses jambes, ses genoux ont-ils dû trembler? Comment doit-il être venu dans la crainte et le tremblement? Car il a entendu ce que le Dieu Tout-Puissant a fait. Et tout le pays aura sans doute entendu. Et le roi lui-même aussi, mais il n'a pas cessé. Mes frères et sœurs, nous voyons cet homme de Dieu, il n'était soumis à personne. Non, il n'a pas écouté une voix humaine qui lui disait ce qu'il devait faire. Mais il a écouté le Dieu vivant. C'est cela le problème. Il n'y est pas allé de lui-même non plus. Peut-être était-il un homme de Dieu, comme l'est peut-être l'esprit chez certains et aujourd'hui, qui font quelque chose parce que cela est dans leur cœur ou parce qu'on les invite. Vous pensez que vous devez y aller de faire quelque chose parce que c'est dans votre cœur? Vous savez, Élie n'avait pas ça dans le cœur. Non, il n'y attachait pas d'importance. Il n'a pas non plus agi en fonction de ce qui lui venait à l'esprit. Mais il n'a fait qu'obéir à l'ordre du Seigneur. La première fois et la deuxième fois aussi. Vous savez, si l'ange du Seigneur n'avait pas parlé, pensez-vous qu'il serait parti? Pas un seul pas. Il n'aurait pas fait un seul pas. Oh, un homme de Dieu et un prophète est un serviteur de Dieu. Il n'écoute que celui à qui il est soumis. Et celui qu'il a mis à son service, c'est lui qui l'écoute et personne d'autre. Et c'est ainsi que nous voyons. Et cela m'a tellement grandi, m'a touché le cœur. Vous savez, frères et sœurs, il n'a écouté personne d'autre. Il n'a pas écouté ses propres pensées non plus. Il n'a pas écouté ses sentiments. il n'a pas construit là-dessus, mais il a écouté ce que Dieu avait à lui dire dans la situation qui était devant lui. Car c'était lui seul qui l'avait mandaté, commissionné, ordonné. C'est ça le problème. Cela m'est venu à l'esprit, frères et sœurs, déjà dans le monde terrestre. Laissez-moi peut-être dire un exemple. On a lorsqu'il s'agit d'un grand propriétaire foncier, il y a des gens qui travaillent chez lui, qui le servent. Autrefois, on disait des serviteurs. Et un serviteur, il n'a pas de droit de décision. Il doit seulement exécuter ce que son maître lui ordonne. Tout ce qu'il fait, il le fait parce que le maître lui ordonne. Il ne doit exécuter que cela. Pas les frères et... N'est-ce pas frères et sœurs? Quand peut-être le voisin qui est lui aussi un maître ou un seigneur sur de nombreux biens ou terres ou encore qui c'est un autre grand homme, il n'a aucun droit de décider de décision sur son serviteur. Non. Mais seul celui qui l'a mis au service a un droit de décision sur lui. Que diriez-vous si un autre venait dire à ce serviteur, « Écoute, toi, va labourer le champ à l'endroit où se trouve le blé et fais ceci et cela, etc. » Et le serviteur, il écouterait l'autre maître. Qu'est-ce qu'il en résulterait? Vous savez, son maître le renvoierait. Il dirait, « Tu n'es plus mon serviteur, car tu n'as pas obéi à mes ordres et tu fais des choses sans que ce soit moi qui te les dis, mais tu as écouté les ordres d'un autre. » Vous savez, il le renverrait, il le mettrait dehors. Et vous savez qu'il en est de même dans le domaine spirituel. L'homme de Dieu, un homme de Dieu qui est au service de Dieu, dans le ministère de Dieu, ne part pas de lui-même, mais il ne part que sur l'ordre de son maître, celui-ci qu'il a mis au service, à son service. C'est là qu'il se règle, c'est à cela qu'il se règle, c'est là qu'il va et c'est ce qu'il fait. Peut-être, peu importe ce que son maître lui dit, il y va et il le fait. Il ne fait rien d'autre, non, il ne peut que le faire. Quand c'est le Seigneur qui lui a dit, il ne peut pas faire autrement, mais il sait qu'il a mis au service. Et vous savez, même si parfois ce que dit son maître paraît insensé, il y va et il le fait parce qu'il sait qui lui a parlé. Vous savez, il m'est arrivé une fois une chose, pardonnez-moi si je fais cette remarque, juste un instant, je suis aussi au travail, je suis occupé, je dois aussi être soumis à mes supérieurs. Nous devons tous l'être, la Bible dit même que nous devons être soumis à nos supérieurs et nous avons dû, je devais effectuer un travail, je devais déplacer quelque chose, je devais aller ranger quelque chose et c'était un atelier. Nous avons dû déménager et c'est là que mon maître m'a donné l'ordre de ranger et les choses toutes là et de là. Et un autre maître est arrivé et il a dit qu'il n'avait que des choses à dire et il voulait me dire que je ne devais pas faire ça, que je ne devais pas ranger les choses là et que je ne devais pas ranger ceci ou cela. Et j'ai dû lui dire, cher maître, écoutez, vous n'avez absolument rien à me dire parce que mon maître m'a ordonné de faire ceci et cela. Et je n'écouterai pas ce que vous me dites maintenant ici. Mais je continuerai à faire mon travail selon les règles. Et vous savez, il était tellement excité. Il a tout de suite couru vers le chef, vers une instance supérieure. Et celui-ci est venu tout de suite et a dit, stop, on continue pas ici. Je dis, excusez-moi chef, mon maître m'a donné l'ordre d'exécuter cela. Et je l'exécute. Veuillez prendre contact avec mon maître. Et j'ai continué mon travail. Ils sont partis tous les deux indignés. Vous savez, un ordre est un ordre. C'est ça le problème. Et vous savez, quand tout a été terminé, ils ont couru vers le maître. Alors mon maître est arrivé et a dit, donc il veut dire patron, en allemand maître. dans l'atelier, donc, maestro. Arrête-toi, arrêtez-vous. Alors, je me suis arrêté. Frère et sœur, et peut-être ce maître est venu et a dit, tu sais quoi, tu as agi correctement. Je n'aurais pas fait autrement. Je dis, tu vois, c'est comme ça. Je voulais te demander avant, aurais-tu agi différemment si cette mission t'avait été confiée? Non, dit-il, je l'aurais fait exactement de la même manière. Frères et sœurs, voici le problème. Nous devons écouter celui de qui nous sommes pris en charge. Chers frères et sœurs, si nous avons été pris au service du Christ, par Christ, alors nous devons écouter sa voix, ce qu'il nous dit et personne d'autre. Vous n'écouterez aucune autre voix, a dit le Seigneur Jésus. Ils écouteront ma voix, a dit le Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix. Et elles me suivent. Et elles savent que personne d'autre n'a d'autorité sur elles, sur eux. Oh, n'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, la même chose. Tous les prophètes de Dieu, tous les hommes de Dieu ont regardé vers lui et n'ont fait qu'exécuter ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et parce que les hommes voulaient qu'ils fassent. Je voudrais dire encore une chose. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même est venu et a dit, « Je dois accomplir ce qui m'a été ordonné par mon Père. » Par mon Père. N'est-ce pas merveilleux? Frères et sœurs, voici la chose. Cela est devenu si grand pour moi. Verset 15. Alors l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, ne crains pas cet homme-là. » Maintenant, c'était fait. Et maintenant, il pouvait partir. Et vous savez, pas parce que les hommes lui voulaient qu'il parte. Et vous savez, il ne pouvait rien dire d'autre non plus à ce roi que ce que Dieu avait dit. Ce que Dieu avait dit. Il n'a pas embelli les paroles comme nous l'avons entendu hier soir. Il ne les a pas déformées. Il n'a pas dit d'une manière ou d'une autre, de telle ou telle façon, que l'on ne savait pas de quoi il s'agissait. Au contraire, il a dit clairement ce que Dieu avait à dire. Et j'aimerais dire, Dieu parle clairement. Alors, Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Puis il dit à celui-ci, ainsi a parlé l'Éternel. Ni celui-ci, ni celui-là, mais le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. A parlé le Seigneur. Donc avant de partir, il faut que le Seigneur t'ait parlé. Parce que tu as envoyé ces messagers, dit Élie ici, pour consulter Baal-Sébous, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas de dieu en Israël dont on puisse recueillir le témoignage. À cause de cela, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, mais tu mourras infailliblement. Voilà ce que Dieu avait dit. Frères et sœurs, et ce que Dieu dit, c'est ce qui reste dit. Aucun homme ne peut le modifier. Aucun homme ne peut l'embellir. Aucun homme ne peut le détourner. Mais ce que Dieu dit, il le dit et cela reste dit. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Vous savez, nous ne pouvons pas plaisanter avec Dieu et la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec elle. Non, elle est sainte. Et nous devons l'apprendre et aborder les choses avec sérieux. Et avec foi, et avec crainte et tremblement, car nous savons que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Oui, c'est un fait. Frères et sœurs, puisse le Dieu fidèle nous avoir tous bénis par ces brefs paroles. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, ces paroles ont été une bénédiction, et je devais dire que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas prêter nos oreilles à quelqu'un d'autre et écouter ce que les hommes veulent nous faire entendre ou bien alors nous faire faire ou bien nous faire dire. Nous devons au contraire tendre l'oreille vers ce que notre Seigneur a à nous dire. C'est ce qui est important et nous devons nous y conformer. Je voudrais dire, frères et sœurs, pas seulement en écoutant la parole année après année, et qu'ensuite nous sommes peut-être ballottés et que nous nous laissons quand même inculquer ceci ou cela, que nous chancelons et que nous ne savons plus où nous en sommes. Mais je pense que si nous avons trouvé la grâce et qu'il nous a placés sur les pieds de la foi, alors nous ne nous laissons pas balloter par n'importe quel vent d'enseignement ici. Mais nous nous tenons sur les promesses du Dieu vivant. Car il ne s'est pas tu, même de nos jours. Il a parlé, il a fait connaître, il s'est révélé et il est encore à l'œuvre. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous arrêter aux circonstances. Nous l'avons entendu hier soir. Non, un David n'a pas regardé. Il aurait pu dire, oui, oh, où en est-on? Donc maintenant, j'ai été loin pour être roi. Qu'est-ce qui s'élève maintenant contre moi, ici, là et là? Comment dois-je suivre des chemins si sombres? Nous l'avons lu dans le psaume d'aujourd'hui. Des bouches de mensonges se sont ouvertes contre moi, calomniant ceci et cela. Tout s'est ouvert contre l'homme de Dieu. Mais il a regardé vers celui qui est devenu sa force. Et il a su qu'avec Dieu, il remportera la victoire. Et nous l'avons entendu hier soir. La fin. Nous avons vu ce que la fin a apporté. Frères et sœurs, les hommes peuvent voir une autre fin, mais Dieu en a aussi une autre. Louange et merci à notre Seigneur. Maintenant, nous allons continuer à écouter ce que Dieu a à nous dire. Amen. Louange et merci à notre Seigneur. Nous avons entendu une précieuse parole de Dieu. Et cela fait tellement de bien de pouvoir s'immerger, s'approfondir dans ce qui est dit. Dans ce qui est dit. Que l'on ne reste pas assis là et laisser d'autres pensées passer par sa propre tête, mais laisser entièrement la parole de Dieu traverser notre cœur. Passer par notre cœur et que les pensées que Dieu exprime dans sa parole nous remplissent, qu'elles nous communiquent et nous fassent connaître les instructions et ce dont nous avons besoin. Les instructions de Dieu et ce dont nous avons besoin. Les hommes de Dieu, nous l'avons entendu, n'étaient pas sous un commandement terrestre, pas sous le commandement d'un roi ou d'un capitaine. Ils étaient sous le commandement de Dieu, sous le commandement de celui-ci, celui qui les avait appelés, qui les avait commissionnés, mandatés, qui leur avait dit ce qu'ils devaient faire. Et c'est ce qu'ils ont firent. C'est ce qu'ils firent en dépit de tout ce qui se passait à droite ou à gauche. Ils savaient qui leur avait parlé. Et ils savaient quelle mission, quelle tâche ils devaient accomplir. Dans cette parole, quelque chose de très grand m'apparaît. Le Seigneur a critiqué et dit, parce que tu as envoyé et tu as fait des recherches par Baal-Zébub, le dieu ou l'idole d'Écron, c'est pourquoi tu ne te lèveras pas de ton lit, car tu as fait honte à Israël. Et tu as voulu faire savoir que la réponse ne se trouvait pas en Israël, mais ailleurs. Et Dieu avait choisi, n'est-ce pas, Israël. Il s'était révélé à eux, les avait conduits et dirigés et guidés. C'est juste après cet événement que le chemin a été emprunté et qu'Élie a ensuite pris la route avec Élisée en passant par Gilgal et Bethuel. Il est arrivé jusqu'au Jourdain et a été enlevé au ciel. C'était le dernier événement, l'exécution de la dernière mission qu'Élie devait accomplir sur cette terre. Et ce dernier mandat était exactement le même que le premier. Il était sous un commandement supérieur et a fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Plus tard, Élisée a commencé son ministère. Et vous pouvez, au fond, faire ce que vous voulez avec la remarque que je vais faire maintenant. Vous pourrez faire le plus grand mal, mais peut-être que ce que je vais dire deviendra une bénédiction pour vous. Il est vrai que j'ai vu, lorsque Frère Branham a été enlevé dans la gloire, a été pris dans la gloire. C'est arrivé le 24 décembre 1965, juste après minuit. Entre minuit et une heure, je l'ai vu. Je le dis devant Dieu, qui jugera les vivants et les morts, devant qui je me tiendrai ce jour-là, comme tous les autres. Je l'ai vu sur le nuage, penché en avant, sans savoir ce qui s'était passé, sans savoir qu'il était rappelé à la maison. Je l'ai vu et j'ai dit, frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Que fais-tu sur le nuage, sur la nuée? Pour moi, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Je n'en ai pas fait grand usage, car vous savez que les gens peuvent très vite faire quelque chose à partir d'une chose et dire ensuite, oui, maintenant, il prend probablement la succession. Maintenant, il veut. Nous ne croyons pas à la succession. Que l'on dise de Pierre est son successeur. Mais si Dieu a donné auparavant un appel et un mandat, alors les choses se présentent à nouveau de manière tout à fait différente. Dans ce cas, on ne succède pas à un prophète, mais à Jésus-Christ. Et on poursuit, donc on suit, on ne succède pas à un prophète, mais on suit Jésus-Christ et on poursuit ce que Dieu a commencé jusqu'à l'achèvement. C'est une grande, très grande différence. Je sais que des frères m'ont interpellé au fil des ans et m'ont dit, pourquoi ne fondes-tu pas, des églises? Le Seigneur du ciel et de la terre, dont j'ai entendu la voix, comme vous entendez maintenant la mienne, audiblement le 2 avril 1962, il a dit lors de cet appel que je devais aller de ville en ville, mais que je ne devais pas fonder d'église locale. Cela aussi est la vérité absolue et tiendra devant Dieu au jour du jugement. Je ne peux pas faire simplement quelque chose parce que d'autres le font. Et je ne peux pas me laisser influencer autrement par la critique. Donc, me laisser influencer par la critique des autres. Mais je dois suivre la voie du Seigneur. Et nous remarquons très bien que si nous avions fondé des églises, donc je dois suivre ce que le Seigneur a dit. Et nous remarquons que très bien que si nous avions fondé des églises, nous serions devenus une autre organisation, exactement sur le modèle de toutes les autres organisations. Et nous aurions manqué le sens et le but de l'appel de l'église épouse dans son ensemble. Notre Dieu voit le temps dans son ensemble. Nous ne voyons que l'instant présent. Nous voyons avec des yeux humains. Nous entendons avec des oreilles humaines. Et nous nous laissons influencer par elles. Moïse devait faire ce que Dieu lui disait. Élie devait faire ce que Dieu lui disait. Frère Branham devait faire ce que Dieu lui disait. et moi, le plus petit de tous ceux que le Seigneur a appelés, je dois faire ce que lui, le Seigneur, m'a dit. Nous lisons de Moïse une parole glorieuse, Exode chapitre 25, verset 40. Prends bien garde de tout faire exactement d'après le modèle qui te sera montré sur la montagne. Prends bien garde de tout faire exactement d'après le modèle qui te sera montré sur la montagne. Moïse et Élie sont en effet deux des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Ils sont ensuite venus sur la montagne de la Transfiguration et ont parlé avec notre Seigneur. Et selon l'Apocalypse 11, ils ont encore un ministère qui doit être accompli en Israël. Et nous voyons justement avec ces deux prophètes. Qu'a dit Élie dans 1 Roi 18? Qu'a-t-il dit? Il a dit, afin que vous sachiez que j'ai fait tout cela selon l'ordre du Seigneur. Ce n'est pas de ma propre réflexion. Ce n'est pas de ma propre volonté. Ce n'est pas comme nous l'avons entendu hier soir que l'un d'eux qui n'était pas du tout envoyé a dit tout à coup à Joab, laisse-moi courir, laisse-moi partir moi aussi. Et il a couru. Il est parti. Mais au fond, il n'avait pas de message et on lui a dit, pourquoi veux-tu partir? Pourquoi veux-tu courir? Tu n'auras pas de salaire, même si tu penses devoir partir comme messager. Qui recevra le salaire? Seulement ceux que le Seigneur a envoyés. Et certains sont ici aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, quand le nouvel an 65 est arrivé, et que les sept révélations divines sont venues au milieu de nous, entre autres, que le Seigneur a mis l'épée, a mis l'épée dans ma main. Vous pouvez vous imaginer que dans mon cœur, j'ai repoussé cela et j'ai dit en moi-même en silence, Seigneur, je ne peux pas accepter cela. Car je sais que l'épée est dans la main du prophète frère Branham. Je ne voulais pas l'accepter quand j'ai appris plus tard qu'il était effectivement rentré à la maison, qu'il était décédé. J'ai su que la décision de Dieu était tombée au milieu de son peuple et qu'aucun de ceux qui étaient présents là-bas n'aurait d'excuses, car ce sont des paroles directes de Dieu qui nous ont été adressées. Et je ne me suis pas laissé entraîner à gauche ou à droite par tel ou tel vent au cours de ces années. Avec l'aide de Dieu, j'ai dû prendre ma position sur la parole révélée. Et je l'ai prise, car je sais qu'en dehors de frère Branham, il n'y aura plus un seul homme qui pourra dire, Dieu m'a révélé ceci et Dieu m'a révélé cela. Il n'y a qu'une seule continuation ou bien continuité, une seule distribution de nourriture, pas de nouvelles révélations à gauche ou à droite, ni d'enthousiasme prophétique ici ou là, mais il n'y a qu'une seule distribution de la nourriture et une révélation prophétique de la parole de Dieu pour le peuple du Seigneur en ce temps. Vous savez que la condition des hommes de Dieu n'était pas facile. Il y avait des conseillers à gauche et à droite, mais celui dont il est écrit qu'il est conseil, qu'il est conseiller merveilleux, tout puissant, prince de la paix, s'il a appelé un homme, il devient alors son conseiller, il est devenu notre conseil. Et alors, nous ne pouvons que lui faire confiance, le suivre, le servir. Et s'il m'arrivait à moi ou à d'autres d'être comme Jonas et de devoir descendre dans les profondeurs les plus bas de la, voire au pied même des montagnes, au commencement de toutes choses, peu importe, la main du Seigneur nous trouvera et nous guidera là-bas aussi. Il préservera et aura un chemin afin de montrer sa fidélité, de faire connaître sa puissance et de nous conduire sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Nous voyons, comme nous l'avons déjà remarqué, qu'Élisa et Élie sont ensuite partis ensemble. Et la condition était la suivante. Si Dieu te permet de voir comment je suis pris, je suis enlevé, tu auras le désir que tu as exprimé. Tu recevras le désir que tu as exprimé. Vous savez, parfois nous n'avons même pas besoin d'exprimer un souhait. Dieu, dans sa sage prévoyance, a déjà fait tout le plan. Il est déjà prêt. Son plan est déjà prêt et est en place. Lorsque Frère Branham m'a dit, Frère Frank, attends d'avoir reçu le reste de la nourriture qui va avec avant de la distribuer. Je n'ai pas compris directement. Mais je n'ai pas non plus osé demander ce que cela signifiait. Mais quand le 19 janvier 1966 est arrivé et que j'ai vu ce grand bâtiment et entendu la voix, tourne-toi vers le peuple et parle. Et cela m'a transpercé la moelle et les jambes. Certains ont entendu des détails là-dessus et je me suis tourné vers cette grande foule et sur l'ordre qui m'a été donné, j'ai prononcé et transmis la parole comme on me l'avait demandé. Comme le Seigneur me l'avait demandé, je suis convaincu. Et je voudrais l'exprimer en ce jour. Aussi certainement qu'il est écrit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse que personne ne doit ajouter quoi que ce soit aux paroles de la prophétie de ce livre. J'ose donc dire que personne ne peut ajouter la moindre chose à la révélation de la parole en ce temps. Et aucun homme n'a le droit d'interpréter. Qu'avons-nous entendu dans ce sermon si puissant? Dieu est son propre interprète. Vous savez que lorsque les hommes interprètent les paroles de Dieu, ils peuvent susciter l'enthousiasme. Et lorsque cet enthousiasme sera passé, ils constateront que l'accomplissement n'a pas eu lieu. Mais ensuite, quand le temps et l'heure de Dieu sont arrivées. Ce n'est pas seulement un enthousiasme, c'est l'accomplissement des Écritures. Alors, la parole de Dieu s'accomplit dans ta vie et dans la mienne. Dimanche dernier, à Zurich, j'ai lu cette précieuse parole de l'Ecclésiaste 9. Permettez-moi de l'effleurer brièvement, puis nous irons un peu plus loin. Ecclésiaste 9, du verset 11. De nouveau, j'ai vu sous le soleil que ce n'est pas au plus rapide que revient la victoire dans la course, ni au plus brave la victoire dans la guerre, ni au sage le pain, ni aux intelligents la richesse, ni même aux savants la faveur, mais ils dépendent tous du temps et des circonstances. Que veut nous dire Dieu par là? Ce n'est pas ta course et la mienne. Ce n'est pas ton savoir-faire ou le mien. Ce ne sont pas tes capacités et les miennes. Mais c'est ce qui est dit ici. Elles dépendent toutes du temps et de l'heure. Je veux dire du temps et des circonstances. Or, nous connaissons celui qui est le Seigneur du temps et de l'éternité. Nous connaissons celui qui est capable de maîtriser toutes les circonstances. Nous péririons dans nos circonstances en les regardant, mais si nous regardons au Seigneur et si son temps et son heure ont sonné, alors il changera le cours des choses. Les circonstances ne nous feront plus obstacle. Nous ne nous ferons plus obstacle et nous irons de l'avant avec notre Dieu. Et cela dans une foi totale, après avoir fait nos preuves dans l'épreuve. Il s'agit de faire ses preuves dans l'épreuve. Donc, remarquons-nous cela, retenons cela. C'est dans le plus rapide. Ce n'est pas le plus rapide. Ce n'est pas dans le plus rapide que se trouve la victoire. Pas dans le plus courageux. Pas dans celui qui est en quelque sorte sage ou intelligent. Mais ils sont tous dépendants du temps et des circonstances. C'est une parole merveilleuse. Parfois, Dieu arrange les choses à un moment donné par certaines circonstances et nous ne voyons plus comment les choses pourraient encore évoluer. Parce que nous fixons notre regard sur les circonstances et non sur celui qui peut changer chaque circonstance à tout moment. Et puis je voulais encore lire brièvement un peu plus loin pour vous montrer que cette parole que nous avons entendue en introduction, tirée du psaume 109, lorsqu'elle a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, personne n'aura pensé à Jésus et à Judas. Mais ce psaume est le seul psaume qui, dans son ensemble, par l'Esprit de Dieu, de la bouche de David, fait apparaître très clairement la position de Jésus et la position de Judas. Il est dit ici, au verset 8, psaume 109, verset 8, les jours de sa vie seront peu nombreux et son ministère sera reçu par un autre. Lisez à ceci Actes des Apôtres, chapitre 1. Et vous verrez que Pierre, avant même que le Saint-Esprit ne soit répandu, fut néanmoins conduit par le Saint-Esprit et s'exprima ici, Actes des Apôtres 1, du verset 20. Car il est écrit dans le livre des psaumes, psaume 69, 26, sa demeure sera déserte et il n'y aura plus d'habitants. Et encore, psaume 109, verset 8, un autre prendra sa place de surveillant. Exactement comme cela a été dit dans le psaume, ainsi Pierre l'a vu par le même Saint-Esprit et l'a classé ici. Bibliquement, ça, ce sont des hommes de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui peuvent classer la prophétie biblique de manière biblique dans son contexte. Je suis convaincu que Pierre n'a pas eu besoin de se donner de la peine. Au contraire, le même esprit qui était sur David a été sur les apôtres, sur tous les hommes de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire une manœuvre de gauche à droite ou de droite à gauche. Ce dont nous avons besoin, c'est de la direction claire du Saint-Esprit. Et il nous révélera tout. Si nous revenons encore à hier soir et à l'attitude, aux sentiments et aux pensées de David, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, disons brièvement ce que nous avons considéré hier. Je ne m'en souviens plus très bien moi-même. Qui s'en souvient? De Samuel 18. Bien. Alors, je n'ai pas besoin d'y revenir. De Samuel 18, et puis vous pourriez lire vous-même l'histoire qui s'y trouve. De Samuel 18. Pour moi, l'attitude de David, qui était l'attitude de Jésus, est devenue si grande. Et je ne peux pas m'empêcher de le souligner encore une fois à cet endroit. Et ce matin, j'ai regardé brièvement dans la prédication de frère Branham, les âmes en prison. Et je n'ai noté que très peu de passages. Ici, dans 2 Samuel 18, nous lisons au verset 31. Lorsque déjà l'Éthiopien arriva et s'écria, « Que mon Seigneur le roi se fasse annoncer le message de joie, que l'Éternel t'a donné aujourd'hui la victoire sur tous ceux qui se sont révoltés contre toi. » Et nous savons que nous avons également lu du chapitre 19, le premier verset de Samuel 19, verset 1. Le roi s'ébranla, monta dans la chambre haute de la porte et pleura. Tout en marchant, il s'écria, « Mon fils Absalom, mon fils. » Vous connaissez ce verset. Il pleura amèrement malgré le grand mal que son fils lui avait fait. Et pourtant, les sentiments de Jésus, les pensées de Jésus étaient dans son cœur. Il n'a pas dit un seul mot. En un seul mot, maintenant, j'aurai du repos. Oh, c'est bien fait pour lui. Il était grand temps. Non. Il dit, oh, que j'aurais pu mourir à sa place. Voilà. L'innocent voulait mourir pour le coupable. Ça, c'est l'attitude, les sentiments, les pensées de Jésus-Christ. Notre Seigneur, l'innocent, n'est-il pas mort pour pour tous les coupables dans ce serment que j'ai mentionné. Il dit à la page 6, quand il a dit que nous étions, quand il a dit que nous étions morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Dieu par le Christ, scellé par le Saint-Esprit, scellé à l'intérieur, en lui, par le Saint-Esprit. Vous savez, nous ne sommes pas enlevés dans la gloire parce que nous avons accepté l'interprétation d'un homme quelconque, mais parce que nous avons accepté Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi des rois, qui est venu du ciel sur cette terre pour nous racheter et nous y faire remonter, pour nous prendre dans la gloire et pour que nous ayons la certitude d'être pris dans la gloire. Dieu nous donne la réponse. Et je l'ai souvent dit, si le Seigneur appelle un homme et que l'homme lui répond en disant, Seigneur, je viens à toi et je veux te suivre, cet homme s'engagera alors sur le chemin de l'obéissance et de la foi. Et il conclura à son tour l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu par le baptême et sera obéissant et fera ce pas de foi. C'est lorsqu'un homme entend la voix de Dieu, la voix de sa parole, et lorsqu'il donne sa réponse à Dieu, ce n'est pas seulement avec ses lèvres, mais en agissant, en obéissant et en se faisant baptiser, Mais lorsque Dieu, lui, à son tour, donne la réponse à cette personne, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'homme donne la réponse à Dieu et dit, oui, je viens, je suis prêt à faire le chemin avec toi. Je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour vivre. Je suis prêt à mourir avec toi pour vivre avec toi. Et l'homme devient obéissant. Sa rébellion intérieure est retirée. Il peut dire oui à Dieu et à sa parole, car la parole prend désormais forme en lui et il se fait baptiser. C'est ta réponse après que Dieu t'a appelé en face de lui. Mais si la réponse de Dieu nous est donnée à toi et à moi, alors ce que Jean a prêché s'accomplit. Je vous ai baptisé d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lorsque Jésus a été baptisé dans le Jourdain, les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu est descendu. Jésus a dit auparavant, il nous convient donc d'accomplir toute justice. Et lorsque cette justice a été accomplie sur la terre, Dieu a dû répondre du ciel et Jésus était le premier-né d'une multitude de frères. Ce qui s'est passé pour lui, le Fils de Dieu, doit se passer pour tous les fils et toutes les filles de Dieu. C'est pourquoi la Bible, et ici aussi frère Branham dit, si nous sommes morts avec Christ, alors notre vie avec Christ est cachée en Dieu, scellée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. La citation suivante est la suivante. Lorsque l'homme a été créé, il était d'abord un homme d'esprit à l'image de Dieu. Car Dieu est esprit. Il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. En vérité. Ta parole est la vérité. Nous l'adorons en esprit et en vérité. Des personnes à qui la parole de Dieu est révélée par l'Esprit de Dieu comme une vérité vivante et fraîche, ils peuvent, ce sont ceux-là et ceux-là seuls qui peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et je le dis encore une fois, comme Pierre, autrefois, il a dit, ne vous lassez pas de ce que je vous écris toujours la même chose, mais je veux éveiller et maintenir en éveil vos sentiments sincères. Depuis des années, Dieu a fait en sorte que cela devienne très grand pour moi. Les deux commencent dans le jardin d'Éden. La parole de Dieu et l'interprétation de la parole dans la parole de Dieu était la vie éternelle. La communion avec Dieu, tout ce que l'homme pouvait se souhaiter. Dans l'interprétation, il y avait un mélange de l'ennemi et c'était la mort, l'inimitié, la maladie, le péché, la perdition. Tout était dans l'interprétation et causé par l'interprétation. Il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Dans la parole originale de Dieu, il y a la vie. Il y a l'Esprit de Dieu. Dans la parole, il y a la révélation de Jésus-Christ. Dans la parole, il y a la révélation du plan de salut de Dieu. Qui d'entre nous oserait s'attaquer à certaines déclarations? Attendons qu'elles trouvent leur accomplissement et alors toute interprétation sera superflue. Je lis à la page 8 de cette brochure, Les âmes en prison. Voici pourquoi il a fait de vous des associés. Il a pris l'homme terrestre et cet esprit éternel et les a réunis. Car Dieu s'est reflété lorsqu'il s'est fait homme en Jésus-Christ. Et il était Dieu. Dieu était en Christ, habitait en lui et réconciliait le monde avec lui-même. Grâce à cet homme parfait, chacun d'entre nous, imparfaits, qui croyons en Dieu et acceptons cela, est parvenu à la perfection en lui. Une rédemption parfaite a été accomplie par un rédempteur parfait sur la croix du calvaire à Golgotha. À Golgotha. Et tout homme qui accepte cette rédemption parfaite sent qu'il reçoit le lien avec Dieu. Il le sent et le sait, car son esprit rend témoignage à notre esprit. Ensuite, le premier être est passé. Maintenant, nous avons sa nature. Il habite en nous. Et nous ne faisons pas notre volonté, mais la sienne. Nous avons parlé hier soir de la nature de Jésus en David. Il est entré dans la brèche. Il a pardonné. Il a aimé. Ce n'était pas David qui était un tel héros de guerre. Celui qui a frappé Goliath d'un seul coup avec une pierre qu'il a mis à terre, puis lui a tranché la tête avec son épée. Non. Ça, c'était Christ en David. Dans le chapitre 19 de 2 Samuel 19. Ici, il nous est dit le premier être, c'est-à-dire ton ancien être, ton vieil homme et le mien, est passé. Maintenant, nous avons sa nature, car il habite en nous et nous ne faisons pas notre volonté, mais la sienne. N'avons-nous pas entendu cela dans la parole de notre frère bien-aimé Rousse? Le capitaine, le centenier, vint avec l'ordre du roi derrière lui. Et il dit, « Homme de Dieu, viens ici. » Et il se peut qu'il ait pensé en lui-même, « Ce n'est pas toi qui me donnes des ordres. » Ça, c'est l'homme de Dieu qui a pensé à ça. Ce n'est pas toi qui me donnes des ordres. Je suis sous un ordre supérieur. Mes ordres ne viennent pas du roi par ton intermédiaire. Mes ordres viennent du roi des rois. Ils viennent d'en haut. Et nous sommes nés d'en haut. Si nous sommes nés de Dieu et si nous distinguons le corps et discernons le corps du Seigneur en ce temps, alors nous reconnaîtrons les ministères que Dieu a réellement donnés pour l'édification et nous lui en serons reconnaissants. L'ancienne nature a disparu. Nous ne faisons plus notre volonté, mais la sienne. Nous ne pensons plus de nos pensées. C'est en effet la disposition, les sentiments, les pensées qui étaient en Christ, le même esprit, les pensées qui étaient en Jésus-Christ sont en chaque croyant. Elles ne le seront pas, mais elles le sont déjà. Si nous sommes vraiment croyants par la nouvelle naissance, il se passe quelque chose dans ton cœur et dans le mien. Et même si ton corps et le mien ne sont pas encore renouvelés, ton âme et la mienne ont été renouvelées. Nous avons fait l'expérience avec Dieu et nous savons qu'une transformation a eu lieu. C'est en effet l'état d'esprit qui pense, l'état d'esprit qui est vrai en Jésus-Christ. Les pensées, les sentiments, l'attitude. Les mêmes choses sont dans chaque vrai croyant. Vient alors la question. Sommes-nous croyants, toi et moi? Sommes-nous vraiment croyants? Oui, nous répondons oui et je ne veux pas mettre de point d'interrogation derrière. L'incrédulité est déjà bien assez grande. Qui n'a pas encore besoin d'être transporté? Qui n'a pas encore besoin d'être... Cette incrédulité n'a pas encore besoin d'être transportée de la plateforme vers le peuple, mais cela vaut la peine de se soumettre à un examen de conscience malgré tout. Prenons l'exemple de David. Nous pouvons de toute façon le considérer sous deux angles. Mais pourquoi Dieu a-t-il dit « C'est un homme selon mon cœur, mon cœur ». Dieu a vu le cœur et il ne dit pas non plus « Mon fils et ma fille, donne-moi ceci ou cela ». mais il dit, donne-moi ton cœur. Et si Dieu a ton cœur, alors il t'a entièrement. Et alors, nos corps deviendront un temple du Saint-Esprit. Suivant. Déclaration suivante. Si nous y réfléchissons, ou attendez, quelque chose, c'est là que se trouve l'âme. Et c'est de cela que nous parlons. C'est à cela que je pense maintenant. C'est l'âme à l'intérieur de nous. Nous l'avons toujours divisé ainsi, ou bien le reparti ainsi. L'âme, l'esprit, le corps, ou le corps, l'esprit et l'âme. Et frère Branham va jusqu'à la fin de toutes choses, jusqu'au noyau. Et il dit, un homme peut être baptisé du Saint-Esprit dans son esprit et être perdu dans son âme. Il s'agit de l'âme de l'homme, de l'âme. Nous avons en effet été rachetés dans nos âmes. Et si nous lisons attentivement ce sermon et d'autres sermons, nous remarquons de quoi il s'agit. Il s'agit de l'intérieur le plus profond. Car Dieu n'a pas dit lors de la création. Et donc l'homme est devenu un corps vivant ou est devenu un esprit vivant. Non, Dieu a dit et donc l'homme est devenu une âme vivante. Il s'agit de l'âme. L'esprit est expiré et vous savez que cela se produit à la deuxième mort. Lors de la première mort, l'âme et l'esprit quittent le corps. Mais la deuxième mort est la mort définitive. C'est là que l'esprit et l'âme sont séparés. Et c'est alors la fin. Nous poursuivons ici notre lecture en y réfléchissant. Il se passe souvent beaucoup de choses et nous nous demandons pourquoi elles se produisent. Nous nous interrogeons les autres. Et si nous sommes chrétiens, nous constatons finalement, après un certain temps, que tout a été fait pour notre bien. Nous nous demandons, je me suis demandé mille fois, aussi bien qu'une fois, et peut-être une douzaine ou plus aussi à d'autres. Mais quand nous nous interrogeons les uns, les autres ou nous-mêmes, nous interrogeons les autres nous donnent la réponse. Si nous nous demandons à nous-mêmes, nous nous donnons la réponse, nous-mêmes. Si nous demandons à Dieu, il nous donne sa réponse. Et il dit que toutes choses servent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que je l'aime. Ça, je le sais, de tout mon cœur, de tout mon âme, et de tout mon esprit, de tout mon âme, de tout mon esprit, de tout mon âme. Sans lui, ma vie serait inutile, sans valeur. Je ne voudrais pas vivre un seul jour sans lui. Il m'a fait tant de bien. Il a exaucé le vœu le plus cher de mon cœur, non pas une fois, mais souvent, ce matin aussi, dans cette salle, je le dis devant Dieu. Est-il arrivé quelque chose pour lequel je n'ai pas prié hier soir, mais pour lequel j'ai seulement été effleuré par une pensée et j'ai dit, Seigneur, fais que cela arrive demain matin, en signe que c'est toi qui m'as donné cette parole, qui m'a donné la parole. Je ne veux rien dire de plus. Mais ce matin, je vois accompli devant mes yeux ce que j'ai fait hier soir en frissonnant quand je ne savais plus si ça allait repartir à si ça allait repartir à l'hôpital. Et que j'ai dû changer deux fois de pyjama et que la force terrestre m'a quitté. Je ne savais plus ce qui allait encore se passer. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as donné la parole, laisse-moi demain matin aller à l'église, aller à l'assemblée et le reste, vous pouvez l'imaginer. Je continue à lire ici. Vous avez déjà vécu cela. Je continue à lire ici. Vous avez déjà vécu cela. Tous les chrétiens l'ont vécu. Nous nous demandons pourquoi nous l'avons fait. Quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis parfois demandé pourquoi Dieu a-t-il permis à Abraham, ce grand homme là-bas, de dire que Sarah n'était pas sa femme. Comment se fait-il qu'il l'ait laissé se tenir là, proférer un mensonge et faire les choses qu'il a faites? Et puis il arrive ici, à l'infini. Qu'est-ce que c'était? Dieu a fait savoir à tous les hommes qu'ils n'étaient que des hommes. Et qu'a dit Élie quand il est allé là, quand il s'est couché et a dit, « Seigneur, ôte ma vie, prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes concitoyens ou bien que les membres de mon peuple. » Qu'ont dit les prophètes lorsqu'ils sont entrés en présence de Dieu? Pas un seul n'a levé les yeux, n'a pu lever les yeux. Le seul qui l'a fait, c'est Saul sur le chemin de Damas. Et il n'a pas seulement dû baisser les yeux, il a été lui-même complètement abaissé et s'est couché dans la poussière, ne voyant plus rien. Il ne pouvait plus que demander, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse est venue, « Je suis Jésus, celui qui te parle ou que tu persécutes. » Frères et sœurs, nous vivons une époque grave. Souvent, nous l'avons dit, et si le Seigneur tarde encore un peu, nous le dirons encore plus souvent. Mais ce temps précieux touche à sa fin. Et si vous continuez à lire cette prédication, alors que Frère Branham avait 14 ans, il a reçu ces terribles coups de feu et son ami dans les jambes et a été opéré. Ensuite, les deux jambes devaient être amputées et il ne pouvait plus le supporter. Et puis, 7 mois plus tard, il a été réopéré. Vous pouvez tout lire ici, dans la brochure des âmes en prison. Les âmes en prison. Mais à ce moment-là, il fut descendu dans les lieux les plus bas de la terre. Et il vit le lieu des perdus. Et il vit comment étaient d'abord des formations de nuages. Vous tous qui connaissez l'histoire de ma conversion, vous savez que j'ai dit cela il y a de nombreuses années, pas seulement parce que Frère Branham l'a dit, mais j'étais suspendu au-dessus de l'enfer et j'ai vu l'enfer. Et ma dernière force avec laquelle je me suis accroché à un socle ressemblant à un seuil de porte. Qui connaît les vieilles maisons qui avaient encore un seuil? Nous les connaissons encore, certains d'entre vous les connaissent. Un tel bois, un tel seuil. Et j'étais suspendu au-dessus de l'abîme. Et je voyais comment les nuages, un peu plus sombres, très peu lumineux. On ne pourrait pas dire que c'était clair, mais il y avait des nuages. Et je savais qu'à tout moment, j'allais descendre, tomber. Ma force physique me quittait de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus. Les dernières forces étaient sur le point de me quitter. Et je savais qu'à tout moment, j'allais descendre en trompe. Je l'ai dit Je le dis si facilement aujourd'hui, mais vous pouvez imaginer à quel point j'étais en sueur lorsque j'ai vécu cette expérience. J'étais à l'église baptiste à l'époque et je pensais que j'étais sauvé parce que j'étais dans une église. Et puis Dieu a dû me montrer, tu es perdu. Quoi que tu ailles à l'église, tu descends. Tu n'oublieras, je n'oublierai jamais ce jour de toute ma vie. Mais je voulais encore dire cela. À l'époque, à l'âge de 14 ans, frère Branham a vu en bas, a vu l'enfer. Il a vu l'endroit des perdus. C'était des femmes avec leurs cils aux yeux peints et maquillés en vert. Et tout ce qui l'entoure ici. Et exactement, 40 ans plus tard, il est assis dans le grand magasin à Louisville, Kentucky, et attend que sa femme ait fini de faire des courses. Et il est assis près de l'escalator et voit les femmes habillées de la même manière qu'il les a vues en enfer. Et il dit, j'ai eu la nausée. Sa femme arrive, l'interpelle, il dit, laisse-moi un peu tranquille, je me sens mal. J'ai la nausée. Laisse-moi encore un peu seul, s'il te plaît. 40 ans plus tard, il a vu ce qu'il avait vu alors qu'il était enfant. Une fois, il y a très peu de temps, je n'ai pas eu le courage parce que je ne voulais pas être soupçonné, prendre une photo dans l'avion de Zurich à Düsseldorf. Je voulais prendre une photo. Mais une femme est entrée accompagnée et j'ai voulu m'abstenir. J'avais un appareil photo sur moi et je me suis dit, tu dois l'aborder, t'excuser et prendre une photo. J'aurais aimé la montrer à tout le monde. Un être humain n'a jamais vu ça. Il fallait détourner le regard. On ne savait pas si c'était une chouette ou ce qu'elle pouvait être. On ne savait vraiment pas. J'ai regardé une fois et je me suis dit, est-ce qu'elle a des yeux, des cils ou au-dessus des yeux? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Et j'aurais tellement voulu prendre une photo juste parce que frère Branham l'avait vu et avait dit, cette femme ne m'a certainement pas intéressé. Mais je me suis dit qu'avant de faire naître des soupçons, je préfère en rester là. 40 ans plus tard, maintenant encore tant d'années plus tard, un jour, le moment sera venu. Et certains diront peut-être, mais où est le retour promis? Quand toutes ces choses se produisent-ils? Elles se produisent au milieu de nous. Elles se produisent autour de nous. Elles se produisent autour de nous. Elles se produisent en Israël, dans le monde entier. Elles se produisent partout. La venue du Seigneur est proche. Nous avons entendu un message de joie, un message de victoire. Et puisse la parole révélée par l'Esprit devenir esprit et vie dans ton cœur et dans le mien. Que Dieu nous l'accorde par grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous et prions. Nous te remercions pour cette heure matinale. Nous te remercions pour cette table bien garnie, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir permis de prendre de toi nourriture de la vie. Seigneur, nous te rendons gloire à toi seul. Nous louons et nous glorifions la grâce que tu as manifestée à notre égard jusqu'à cette heure et jusqu'à cet instant. Dieu fidèle, nous te prions de continuer à rester avec nous. Fais que nous prenions ces paroles à cœur. Fais-les bouger dans nos cœurs comme Marie l'a fait. Que nous puissions les repasser dans nos cœurs. Ô Seigneur, car nous avons entendu ta parole, Seigneur, et nous croyons en ta parole. Seigneur, continue à être avec nous cet après-midi aussi, Seigneur. C'est ma prière. Bénis mes frères, mes sœurs. Bénis-nous tous, Seigneur. Nous qui sommes venus, Seigneur, à la gloire de ton nom. Alléluia, ton merveilleux nom de Jésus. Amen, amen.